Bonjour à toutes et à tous, il est 5h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Léa Boutin-Rivière.
Libreville, en fête hier soir au Gabon, Brice Oligui Nguema a remporté l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce qu'indiquent les résultats provisoires qui le créditent d'un peu plus de 90% des suffrages exprimés. Un score à l'image de la campagne largement dominée par le rassemblement des bâtisseurs. Donald Trump et Nayib Bukele, main dans la main. Les présidents américains et salvadoriens se retrouvent aujourd'hui à la Maison Blanche pour parler de leur partenariat sécuritaire. Nouvelle étape après plusieurs semaines d'idylle entre les deux hommes. Dans ce journal également, l'État français accusé par Médecins Sans Frontières de ne rien faire en faveur des salles de shoot. Et puis, un sommet dans l'océan Indien pour tenter d'endiguer la surpêche du thon. Brice Oligui Nguema a 7 ans devant lui. Au Gabon, le chef de la transition l'a emporté haut la main à la présidentielle d'hier. Selon les chiffres encore provisoires communiqués par le ministère de l'Intérieur et qui doivent donc être confirmés, selon ses premiers résultats, 20 mois après sa prise de pouvoir, le général a obtenu un peu plus de 90% des voix au cours de ce scrutin qui a mobilisé plus de 70% des électeurs gabonais. Les autres candidats sont largement distancés puisque le deuxième, Alain-Claude Bilbinzé atteint tout juste les 3% des suffrages exprimés. Les 6 restants ne dépassent pas 1%. Un résultat prévisible après une campagne largement dominée par son mouvement, le Rassemblement des bâtisseurs. L'heure était donc à la fête hier dans les rues de Libreville. François Mazet.
La vie avance en abondance et de l'argent.
La messe est à peine dite au ministère de l'Intérieur que le centre de Libreville résonne déjà de cris de joie. Au bord d'un trottoir, Edna, une fonctionnaire, lance la Concorde, l'hymne national, sur son enceinte. Elle est ravie du résultat.
Très belle journée. Vraiment, on est satisfait. Un grand changement par rapport aux élections passées. C'est que les résultats sont proclamés en plein jour.
À ses côtés arrive Nadège, drapeau vert jaune bleu à bout de bras.
C'est parfait. Il a démontré, il a prouvé, tel que par exemple la démocratie qui n'existait plus. Aujourd'hui, c'est bon, c'est parfait. Oh là là, c'est bon, le Gabonais, ok, c'est bon.
Roland, casquette du rassemblement des bâtisseurs sur la tête, s'arrête. Son engouement pour le nouveau président est total.
Dieu a donné le Messie gabonais qui est là pour s'occuper des peuples gabonais. Ils savent que les Gabonais sont en difficulté. Je donne longue vie et une très grande chance à notre père des nations, son excellence Oligui Nguema.
Dans la soirée, des files de taxis blancs Gap Plus, lancés avec le soutien du CTRI, sillonnaient la ville pour klaxonner vivement en soutien au futur président. Les Libre-Villois ont choisi de célébrer ce tournant dans l'histoire du Gabon sans se projeter sur les défis du lendemain. François Mazet, Libreville, RFI.
Et RFI reviendra tout au long de la journée sur ses résultats électoraux. La partie semble être gagnée pour Daniel Noboa aussi. Le président sortant équatorien vient de revendiquer une victoire historique au second tour du scrutin pour la magistrature suprême. L'autorité électorale l'a déclaré gagnant de l'élection car sur 92% des bulletins de vote déjà dépouillés, le chef d'État a obtenu 56% des voix. Sa rivale, Luisa González, en a engrangé 44%. La candidate de gauche rejette ces chiffres. Elle affirme ne pas reconnaître l'issue du scrutin et réclame un recomptage des voix. Un ciel sans nuages plane sur la relation entre Donald Trump et Nayib Bukele. Le chef d'État américain reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche son homologue salvadorien. Alors que Washington annonçait il y a quelques heures l'expulsion vers le Salvador de 10 personnes accusées de faire partie d'organisations criminelles. Le pouvoir salvadorien est connu pour son extrême fermeté contre les gangs et ses détentions massives. Et ces dernières semaines, Nayib Bukele est devenu un partenaire clé des États-Unis, puisque les prisons salvadoriennes accueillent désormais des migrants accusés d'appartenir à des groupes criminels. Une collaboration dont Nayib Bukele espère des retombées positives, Juliette Chénion.
Oui, le président salvadorien a déjà engrangé mi-mars 6 millions de dollars en acceptant encore plus de supposés membres de groupes criminels dans ses prisons. Le chèque pourrait grimper, d'après la presse américaine, une manière pour Bukele de financer et légitimer ses méga prisons sécurisées. Autre demande de Nayib Bukele, le retour au Salvador de criminels du gang MS-13 détenus par Washington. Cela permettrait au président salvadorien de freiner les enquêtes américaines en cours sur des liens suspectés entre son gouvernement et le gang. Dans son pays, Nayib Bukele est accusé d'abus et de dérives autoritaires par des organisations de droits humains, ce qui lui fait un point commun avec l'administration Trump. Plusieurs familles de migrants expulsés parlent de fausses accusations d'appartenance à des gangs et de détention arbitraire. Ces dernières semaines, la relation entre les deux présidents ne cesse de se renforcer à coups de compliments sur les réseaux sociaux. Bukele a même promis de venir à la Maison Blanche avec le soda préféré de Donald Trump, qui lui déclare désormais le Salvador parmi les pays les plus sûrs au monde pour le tourisme.
Juliette Chénion. Et Donald Trump vient de réagir après une frappe russe meurtrière contre l'Ukraine. Un acte horrible, selon les mots du président américain, qui n'a toutefois pas incriminé la Russie pour ce bombardement contre la ville de Soumy. 34 personnes sont mortes et 117 autres ont été blessées au moins. Le chancelier allemand Friedrich Merz a, lui, accusé Moscou d'un grave crime de guerre, tandis que le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit sous le choc. Pas d'accalmie donc en Ukraine et pas d'apaisement à Gaza non plus, où Israël a mené hier une frappe contre l'hôpital d'Al-Ahli, l'un des derniers à être en activité. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un enfant a perdu la vie en raison de l'interruption des soins causés par cette frappe. L'OMS appelle au cessez-le-feu immédiat. La France dans le viseur de Médecins du Monde. L'ONG attaque l'État devant le tribunal administratif aujourd'hui, car elle l'accuse d'inaction dans l'expérimentation des salles de shoot, officiellement appelées des haltes soins addiction, ces lieux où les usagers de drogue peuvent être accueillis sans risque d'ennui judiciaire. Pour Médecins du Monde, c'est même pire, l'État ferait obstruction au bon déroulé de ce test, ce qui, estime l'organisation, relève de la faute. Alors que l'expérimentation se termine à la fin de l'année et que seules deux salles de shoot ont vu le jour, à Paris et à Strasbourg, Médecins du Monde souhaite que ces lieux soient pérennisés, Tadita Falay.
En fait, pourquoi Médecins du Monde attaque l'État ?
Médecins du Monde accuse l'État d'empêcher l'ouverture de haltes santé addiction, les HSA, même si elles sont pour l'instant de simples expérimentations.
Il y a une carence dans le fait de mener cette expérimentation.
Adrien Perret-Calazel est juriste au sein de l'ONG.
Il y a eu une obstruction active de l'État pour ouvrir des salles. Par exemple, la salle de Marseille pour laquelle on fait un recours, où il y a clairement eu une intervention politique de la part du gouvernement pour empêcher l'ouverture de cette salle.
Une faute grave, car l'État doit mener des politiques de santé publique, selon l'ONG. Point de vue partagé par la Fédération Addiction qui réunit des addictologues. Catherine Delorme en est la présidente. Pour elle, les HSA permettent aux personnes marginalisées de consommer sainement, mais surtout
d'avoir un coin pour se reposer, d'être en contact avec des travailleurs sociaux. C'est une des portes d'entrée du dispositif pour les plus précarisés, les plus marginalisés qui sont sous les radars, quoi.
Une situation qu'a longtemps duré Franck.
J'ai 55 ans. À 15 ans, j'ai été mis en foyer. À 19 ans, je me suis retrouvé une première fois à la rue, jusqu'à l'ouverture de la salle, ce qui m'a permis de refaire les papiers, enfin reprendre une vie à peu près normale.
Et d'être embauché au sein de la structure, l'année dernière, il a participé à accompagner les près de 800 personnes qui sont venues dans ces structures.
Tanita Fallet. C'est un rendez-vous discret. Depuis hier, sur l'île de la Réunion, la commission des thons de l'océan Indien se réunit pour mettre en place des quotas pour éviter la surpêche. Parmi les mauvais élèves, Jeanne Richard, la France et l'Espagne.
La France et l'Union européenne s'engagent beaucoup pour lutter contre la pêche illégale et pour protéger certaines espèces menacées comme les tortues et les requins prisées par des pays asiatiques. Et la ministre de la Transition écologique française, Agnès Pannier-Runacher, assure aussi se mobiliser pour une pêche au thon durable.
Nous ne voulons pas que des énormes bateaux usines aillent prendre toute la ressource halieutique dans la mer et empêchent des pêcheurs de vivre de leur métier.
Et pourtant, pour Frédéric Lemanac de l'ONG Bloom, la France est loin d'être exemplaire sur la question.
Si on additionne les captures des bateaux français, espagnols, plus ceux qui sont sous capitaux français ou espagnols, mais qui sont pavillonnés aux Seychelles, à Maurice, en Tanzanie, à Oman, etc., c'est quasiment un tiers de toutes les captures de thon dans l'océan Indien. Donc clairement, il faut que la France et l'Union européenne nettoient devant leurs portes avant de nous faire des leçons au monde entier, quoi.
Et en coulisses, les discussions sont tendues autour de la mise en place de quotas de pêche pour chaque état de la région.
L'enjeu, il est vraiment d'avoir une répartition juste et équitable des droits de pêche, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, puisqu'on a quelques grandes puissances de pêche, dont l'Union européenne, qui ont un impact démesuré et évidemment inacceptable par rapport à un petit pêcheur marginalisé iranien ou sri-lankais.
Surpêchées pendant des années, les populations de thon de l'océan Indien sont toujours fragiles.
Précision signée Jeanne Richard. Il est 5h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.